Je vais te tourner dans la parole dans Marc chapitre 10, verset. Marc chapitre 10. Rappel aussi pour Mission Vacances. Donc, cette année, on aimerait avoir une équipe de femmes et d'hommes qui prieraient pour nous, qui se déplaceraient quand on va à l'extérieur, qui viendraient ici, se réuniraient dans une salle, que ce soit la salle des mamans ou ailleurs, un endroit dans l'église où on pourrait prier pour ceux qui partent, qui vont à l'extérieur, soit dans le, sur la rue, soit dans le porte-à-porte, qu'on puisse vraiment savoir qu'on est, on est soutenu par une équipe de prière ici et on partagerait le repas ensemble et tout ça après. Mais qu'on puisse, si ça vous invite, si ça vous intéresse, allez trouver notre frère Michael pour vous inscrire. On en a parlé à la réunion de prière de jeudi. Je pense que c'est important. C'est vrai que c'est important qu'il y ait des gens qui vont à l'extérieur, mais c'est aussi important qu'il y ait des gens qui demeurent sur place et qui prient pour que les gens puissent ouvrir leur cœur et entendre, non seulement entendre, mais recevoir la parole de Jésus-Christ. Alors, rappelez-vous que ceux qui prient obtiennent les mêmes récompenses que ceux qui vont proclamer l'Évangile. Hein? C'est la même récompense. Et je pense que vous avez un ministère encore beaucoup plus difficile que ceux qui vont aller annoncer l'Évangile, parce que vous êtes ceux qui, dans la prière, donnent autorité à Dieu d'agir à travers les messagers que Dieu envoie parcourir les rues de la ville pour entendre parler de Jésus-Christ. Donc, c'est un ministère fort important que celui de la prière. Et ici, tantôt, on a lu le chapitre 10, une partie du chapitre 10, c'est-à-dire les versets 17 à 31. Et à bien des égards, eh bien, l'histoire que nous venons de lire, en fait, que nous avons lu, est une tragédie, parce que c'est l'histoire d'un jeune homme qui vient voir Jésus et qui cherche la vie éternelle. Pietre, est-ce que tu traduis ce matin? Okay. Je vais essayer d'aller moins vite. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce jeune homme? Eh bien, il va retourner découragé et triste suite aux paroles qu'il va entendre de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, il était venu voir la bonne personne, il avait posé la bonne question, mais il va prendre la mauvaise décision. D'après ce que nous savons, il n'a jamais reçu la vie éternelle qu'il avait tant espéré recevoir. Il est tragique de constater que beaucoup de gens répondent à tout pour ce qui concerne les choses de la vie, mais qui, pour ce qui concerne les choses de l'éternité, eh bien, sont à court de réponse, y compris dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Au verset 17, Marc nous dit, décrit un homme courant vers Jésus, se jetant à genoux devant lui. Au verset 22, eh bien, nous apprenons que ce jeune homme était riche. Il avait beaucoup de biens, nous dit la parole. Matthieu, dans son évangile, ajoute aussi, parce qu'on retrouve ce passage dans Luc, que Marc et Matthieu, Matthieu, dans son évangile, ajoute que c'était un jeune homme. Les gens devaient être étonnés de voir ce jeune aristocrate se jeter aux pieds du prophète Jésus de Nazareth, qui était sans le sou. Que cherchait-il à obtenir de Jésus? La dernière partie du verset 17 nous révèle ce qu'il cherchait. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Il cherchait à avoir la vie éternelle en tant que telle, et il va poser là la question la plus importante que quelqu'un puisse se poser dans toute sa vie. De plus, il n'y avait rien de mal à chercher à avoir la vie éternelle. Après tout, nous avons été créés par un Dieu qui va vivre de toute éternité, qui vit de toute éternité, qui est un être éternel, qui désire que nous ne périssions pas, mais que nous vivions avec lui pour l'éternité. Alors voilà donc qu'on est en présence de quelqu'un qui cherche à avoir la vie éternelle. Et n'est-ce pas là une requête étonnante, frères et sœurs? Les Juifs qui étaient rassemblés autour de lui, c'est intéressant parce que le contexte est important, parce que ça va nous permettre de voir pourquoi les Juifs, les gens qui étaient autour de Jésus, étaient étonnés par la réaction, par les paroles de Jésus. C'est important de voir le contexte ici. Mais les Juifs qui étaient rassemblés autour de Jésus ont probablement été surpris de voir cet homme qui cherchait à obtenir la vie éternelle. Parce que je suis convaincu qu'en fonction du contexte historique, la plupart des Juifs qui étaient autour de Jésus étaient convaincus que ce jeune homme riche avait la vie éternelle en lui. Et qu'est-ce qui me pousse à dire cela? Il y a deux choses. Premièrement, ce jeune homme était religieux, verset 20. Il était religieux. Ce n'est pas un athée, ce n'est pas un non-croyant, c'était quelqu'un de religieux. Nous lisons dans la dernière partie du verset 20 ici qu'il avait obéi à tous les commandements depuis sa jeunesse. Ça veut dire dès son enfance. On lui avait enseigné la Bible à la maison et à la synagogue. À partir de ses 12 ans, parce que c'était à 12 ans qu'on devenait adulte chez les Juifs à ce moment-là, à partir de 12 ans, Il va devenir un jeune adulte et il va faire tous ses efforts pour vivre selon la parole de Dieu. De plus, ce qui nous laisse penser que tout cela est vrai, c'est que Jésus ne le reprendra pas sur ce qu'il va dire. Parce que s'il avait prononcé un mensonge, Jésus l'aurait repris tout de suite. Jésus ne dit pas mot, il ne le reprend pas dans ce qu'il va lui dire. Luc, de son côté, nous dit que ce jeune homme était un chef, dirigeant religieux. Et quand vous regardez le mot grec qui est utilisé dans Luc, eh bien, c'est probablement un chef de la synagogue qui avait été formé dans les Écritures, qui fréquentait les cultes, qui avait lieu à la synagogue chaque jour du sabbat, et qui connaissait bien les enseignements doctrinaux de sa religion. Il connaissait bien la doctrine, mais il n'avait pas l'assurance de la vie éternelle. J'espère que dans ce lieu ce matin, vous tous ici sans exception, vous avez cette assurance que si aujourd'hui Dieu vous rappelait, Dieu vous redemandait votre âme, eh bien vous avez la certitude dans votre cœur, sans l'ombre d'aucun doute, que Dieu vous ouvrirait les portes du paradis et qu'il vous laisserait entrer dans son ciel pour l'éternité, avec qui vous êtes appelé à partager sa présence. Beaucoup de Juifs pensaient qu'ils avaient probablement déjà la vie éternelle. Pourquoi? Parce que, deuxièmement, il était riche. C'est intéressant de voir que la richesse était un critère pour les Juifs à l'époque de confirmer que tu avais la vie éternelle parce que c'était synonyme que tu étais béni de Dieu si tu avais de l'argent, si tu avais des biens. Ça arrive encore aujourd'hui, hein? Surtout aux États-Unis avec l'évangile de la prospérité. Si tu as beaucoup d'argent, si tu n'es jamais malade, si l'argent te tombe du ciel, c'est le cas de le dire, eh bien, tu es un bon chrétien, tu es au-dessus de la moyenne en tant que chrétien, Dieu t'a béni. Et ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas d'argent, eh bien, ils ont des péchés dans leur vie. Mais Jésus, oublie la parole de Jésus qui dit, « Vous aurez toujours des pauvres avec moi. Vous aurez toujours des pauvres avec moi. » Et c'est un des ministères de l'Église de s'occuper des pauvres, d'abord dans l'Église, et des pauvres à l'extérieur, Dieu voulant. Comme nous l'avons déjà vu au verset 22, il est écrit qu'il avait de grands biens. Et à cette époque, je le répète, les Juifs croyaient que la richesse était un signe que Dieu accordait sa faveur aux justes. Cela explique l'étonnement des disciples dans les versets 24 et 26, 24 à 26, car ils croyaient à cet enseignement qui supposait que si quelqu'un voulait aller au ciel, il devait être riche. Combien de gens ressemblent à cet homme aujourd'hui? Ils fréquentent une église, ils sont moralement bons, droits la plupart du temps, et ils croient dans leur fort intérieur que cela est suffisant pour avoir la vie éternelle. Pourquoi est-il venu voir Jésus, frères et sœurs? Malgré sa richesse et sa vie morale exemplaire, il savait au plus profond de lui-même qu'il lui manquait quelque chose. Il était intérieurement agité. Il pensait probablement qu'il accomplissait suffisamment de bonnes choses pour mériter la vie éternelle. Mais il voulait s'en rassurer. J'espère que dans ce lieu, ce matin, vous avez tous, encore une fois, l'assurance que vous avez, que vous possédez la vie éternelle, que vous êtes des héritiers du royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas sûr ce matin, Dieu vous ouvre ses portes. Dieu, à travers sa parole, vous appelle à avoir cette assurance. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de nous condamner. Le but de Dieu, c'est de nous sauver. La parole nous dit dans l'Évangile de Jean que Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Et Dieu, encore aujourd'hui, à travers Jésus-Christ, veut sauver le plus grand nombre possible. Est-ce que c'est une conviction pour vous ce matin? Amen. Dans le même passage, dans l'Évangile de Matthieu, Matthieu va ajouter ceci au verset 19 et 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses qui me manquent. Que me manque-t-il encore? » Il était religieux, il était obéissant et riche. Mais était-ce suffisant pour hériter du royaume de Dieu, frères et sœurs? C'est intéressant parce qu'en parlant avec des chrétiens, je m'aperçois que ce sont des critères, que les mêmes critères que le jeune homme riche, il y a des chrétiens qui s'appuient sur ces critères-là pour avoir l'assurance qu'ils ont la vie éternelle. Je n'ai pas de dette, j'ai de l'argent dans mon compte de banque, j'ai une maison, je n'ai pas à m'inquiéter du lendemain, Dieu me bénit, je suis sûrement son enfant. Malheureusement, sans vouloir décevoir personne, ce ne sont pas les critères pour devenir un enfant de Dieu et être un héritier du royaume selon les évangiles. Et ce jeune homme-là, il est complètement à côté de ses pompes. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la façon que Jésus va le travailler. La manière d'évangéliser de Jésus pour l'amener à réaliser, finalement, qu'il lui manque vraiment quelque chose. Il est évident que quelqu'un qui cherche à être sauvé par les œuvres est toujours en train de se demander s'il en fait assez, parce que vous n'avez jamais la certitude que vous êtes sauvé. Cet homme va donc apprendre qu'il y avait quelque chose autre que l'argent qu'il ne pouvait pas acheter. Avec de l'argent, nous pouvons acheter un lit, mais on ne peut pas acheter le sommeil. Avec de l'argent, nous pouvons acheter une maison, mais on ne peut pas acheter un foyer tranquille. Avec de l'argent, nous pouvons acheter un diamant, mais on ne peut pas acheter l'amour. Avec de l'argent, nous pouvons acheter des bancs pour l'Église, mais on ne peut pas acheter le salut des gens. Ses richesses n'avaient pas pu acheter ce qui lui manquait dans sa vie. Et d'une certaine façon, ici, Jésus, eh bien, la position que ce jeune homme occupait, dans la société, n'avait pas satisfait le désir profond de son cœur. Il n'avait pas la paix de Dieu dans son âme. Il n'avait pas la paix de Dieu dans son âme. Et tout religieux, aussi bon soit-il, qui fait des œuvres pour essayer de gagner son ciel, n'a jamais la paix dans son âme parce qu'il est toujours en train de se demander qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter de la vie éternelle. Il n'a jamais la paix dans son cœur. Jamais il a la paix dans son cœur. Et ce jeune homme, il ne fait pas exception. Malgré tout ce qu'il avait accompli dans sa vie, il cherchait à savoir encore ce qu'il avait besoin de faire pour avoir l'assurance de la vie éternelle. Eh bien, le texte que nous avons devant les yeux, frères et sœurs, nous donne la réponse. Voici un homme, verset 17, voici un homme qui pense être sur le chemin qui mène au ciel et qu'il pouvait y entrer à travers les bonnes œuvres qu'il faisait. Il va dire à Jésus, « Que dois-je faire? » Ça, c'est le religieux. « Que dois-je faire? » Frères et sœurs, vous êtes des membres de l'Église de Jésus-Christ, vous êtes des membres de l'Église, vous ne devez jamais vous poser la question « Que devez-vous faire pour votre Église? » Parce que vous allez tomber dans le piège des œuvres. Vous allez faire le ménage pour que les gens vous regardent en pensant que vous gagnez des grâces vers le ciel. La question qu'un chrétien de nouveau doit se poser, ce n'est pas « Que dois-je faire? » mais « À quoi Dieu m'appelle à son service dans l'Église? » « À quoi Dieu m'appelle à le servir dans son Église? » Que dois-je faire? Vous savez ce que ça souligne, ça? Ça se laisse sous-entendre? Pour mettre l'auréole. Mais à quoi Dieu m'appelles-tu pour te servir? Pour ta gloire? Pour te glorifier? Même si les membres ne sont pas au courant de ce que je fais dans l'Église. Seigneur, je le fais parce que tu m'appelles à te servir pour ta gloire. Que ce soit de mettre des rouleaux de papier de toilette, que ce soit pour laver, pour nettoyer. Que ce soit pour aller voir des personnes âgées dans les maisons de repos sans que personne ne sache. Merci Seigneur de m'appeler à te servir auprès des personnes âgées pour ta gloire. Mais pas qu'est-ce que je dois faire pour me distinguer entre guillemets des autres frères et sœurs dans l'Église, pour montrer que je suis meilleur que les autres, pour montrer que j'ai de plus grandes capacités que les autres. Ça, c'est le religieux. Et le religieux, contrairement à celui qui est né de nouveau, il veut se faire voir par les autres quand il sert dans l'Église. Il veut occuper la première place. Il ne veut pas servir les autres. Il veut se servir des autres pour se glorifier, pour être admiré. Et le jeune homme riche, il ne fait pas exception à la règle. Mais celui qui est né de nouveau, qui répond, qui dit « Seigneur, à quoi tu m'appelles à te servir dans ton Église? Seigneur, utilise-moi là où tu veux, que ce soit en secret, que ce soit devant tout le monde. Seigneur, tout ce que je vise dans ma vie, c'est de te glorifier. Te glorifier, oui. C'est ce à quoi Dieu appelle son Église, c'est ce à quoi Dieu appelle ses enfants. Que dois-je faire, le jeune homme Régis? Que dois-je faire? Il croyait qu'il y avait quelque chose de particulier à faire. Quelque chose d'autre que vous devez ajouter à la liste de ce que vous avez déjà accompli pour avoir la vie éternelle. Pendant un court instant du moins, il semblait être prêt à tout faire ce qui était nécessaire pour obtenir la vie éternelle. Pourtant, Jésus savait qu'il était sur le mauvais chemin. Et son cœur fut ému de compassion pour ce jeune homme. Et le cœur du Seigneur est ému de compassion quand il voit des membres d'une église qui cherchent à faire des choses pour essayer de se faire pardonner ce qu'ils ont fait de mal. Alors que la croix est toujours là, confesse ton péché. Je suis un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté. Et après, réponds à l'appel à laquelle tu es appelé dans ton Église, à me glorifier. Frères et sœurs, on ne sert jamais dans l'Église si ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais ouvrir une petite parenthèse ici ce matin. Hier, c'était la journée des travaux dans l'Église. Il y a eu 3 personnes qui se sont déplacées sur 98 membres pour nettoyer l'Église. Je comprends qu'il faisait beau, je comprends qu'il faisait chaud. Frères et sœurs, ça m'interpelle énormément, ça. S'il faut engager des gens pour faire le ménage en Église, on est complètement à côté de nos pompes. Hein? Quelqu'un a déjà proposé d'acheter un lave-vaisselle pour la vaisselle le dimanche. Ça ne réglerait pas le problème. Hein? Parce qu'on n'aurait même pas les gens pour déposer les vaisselles dans le lave-vaisselle, ni les sortir dans le lave-vaisselle quand ils sont lavés. Ce qui manque dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est un esprit de service. On a perdu de vue ce que c'est qu'une Église. On est en train de devenir comme les religieux, les catholiques. On vient dimanche, bien habillé, on parade. Regardez-moi, on s'en va. Est-ce qu'on a reçu? On est venu pour quoi? Pour recevoir, pour donner, pour se faire voir? Frères et sœurs, le jeune homme riche, il est habillé de beaux apparents. Le jeune homme riche, il voulait bien paraître devant les gens. Et le jeune homme riche, il était perdu. Perdu dans ses péchés. Parce qu'il essayait de gagner son ciel pour lui-même. Et le verset 21 est un verset que j'aime bien. Il est très court. Jésus l'aima. Combien Jésus devait avoir pitié de cet homme qui faisait tout pour gagner son ciel alors qu'il était venu justement sur la terre pour nous ouvrir les portes du royaume de Dieu. Combien il devait être triste de voir tous les sacrifices que ce jeune homme faisait, alors qu'il suffisait d'accepter un seul sacrifice pour savoir ouvrir les portes du royaume de Dieu. Combien Jésus devait avoir le cœur rempli de compassion et de pitié pour cet homme qui faisait tant d'efforts pour gagner son ciel. Et évidemment que c'est très difficile. Parce que Jésus va lui montrer ici que les idées qui concernent le salut, les idées qu'il avait concernant le salut étaient complètement faussées. Et évidemment que c'est très difficile à entendre pour quelqu'un qui s'était dit toute sa vie qu'il pourrait entrer dans n'importe quel endroit qu'il désirait entrer. Surtout, il pouvait aller n'importe où, le jeune homme riche. Surtout qu'il avait fait des grands efforts pour réussir dans la vie. Après ça, cet homme faisait partie d'un groupe particulier de personnes qui sont religieux, qui sont interpellées lorsqu'ils entendent le message de l'Évangile. Et qui pourtant ne peuvent pas prendre de décision pour entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'ils ne sont pas prêts à suivre les règles qui y sont établies. Remarquez alors la façon de procéder du Sauveur. Jésus va agir comme un médecin. Il est le médecin par excellence. Et frères et sœurs, c'est un bon modèle pour nous et pour ceux qui vont s'impliquer dans Mission Vacances cet été. C'est un bon enseignant pour nous. C'est un bon enseignement pour nous aussi. Regardez comment il va réagir. Il va examiner la condition spirituelle de cet homme. Il va faire en sorte que le jeune homme lui confie sa condition spirituelle pour lui dire ce qui ne va pas et lui donner le remède adéquat. Et c'est bon aussi pour nous, frères et sœurs. Jésus ne commence pas à le bombarder de versets. Il ne commence pas à lui dire qu'il y a tort. Il prend le temps de l'écouter. Et quand on va à l'extérieur, frères et sœurs, on a besoin de prendre le temps d'écouter les gens pour être capable de les situer et après de les amener dans la parole. On a besoin. Dans les années 60, on sortait, on bombardait les gens de versets sans connaître leur arrière-plan, sans rien connaître d'eux. Les gens, c'était comme si c'était du chinois ou même du polonais. Les gens ne comprenaient rien. Mais Jésus est un bon enseignant. Il est le Dieu fait homme. Et il vient. Il ne vient pas pour nous faire la leçon. Il vient pour nous montrer qu'en dehors de lui, on est perdu. Il vient nous montrer que c'est à travers lui que le salut se trouve. Et là, il nous écoute. Et c'est ça qui est merveilleux. Jésus a une oreille pour chaque personne qu'il rencontre. Pourquoi? Parce qu'il veut la situer dans son lieu pour être capable de l'amener dans le royaume de Dieu. Et frères et sœurs, c'est un beau modèle pour nous. Que ce soit avec des jeunes, que ce soit avec des moins jeunes, que ce soit avec des plus vieux, on a besoin de prendre du temps à écouter. Il y a 3-4 questions que je donne dans le cours d'évangélisation Ils sont très simples. Comment évangéliser sans argumenter? Sans argumenter. On ne va pas aux portes pour donner des coups de poing dans la figure aux gens qui ne pensent pas comme nous. Hein? Non. Vous écoutez les gens. Vous écoutez les gens. Vous les écoutez parler. Et tout de suite, quand vous avez l'occasion, avez-vous une quelconque croyance spirituelle? Pas êtes-vous religieux, parce que là, les gens, avez-vous une quelconque croyance spirituelle? C'est simple, ça. Hein? Ah oui, moi, je crois au tarot. Moi, je crois à... Vous écoutez. Parce que vous savez, la deuxième question que vous allez poser, vous en parlez pendant 10 minutes du tarot, écoutez. Priez, ayez de la compassion pour cette personne, elle est perdue. Qui est Jésus pour vous? Ça, c'est la deuxième. C'est un fou, c'est un malade, c'est un imbécile. Écoutez. Troisième question, croyez-vous qu'il y a un ciel et un enfer? Ben non, ben non, ben non. Pas écoutez. La quatrième, là, elle est personnelle. Ah! Il vous a dit qu'il ne croyait pas au ciel et en enfer. Et là, vous lui dites, écoute, si vous mourrez aujourd'hui ou demain, que vous comparaissez devant Dieu, et que vous vous demande pourquoi je devrais vous laisser rentrer au ciel, qu'est-ce que vous diriez? Ah, là écoutez, l'enfer, là, l'enfer existe, puis le ciel aussi, hein? Pourtant, il ne croyait pas à la question d'avant, mais là, c'est personnel. Vous sortez du général de le personnel. Frères et sœurs, ce n'est pas normal que des gens, sur les premiers contacts dans le porte-à-porte, vous ouvrent leur cœur, pleurent des larmes qui vous racontent leur vie. Vous savez pourquoi qu'ils le font? Parce qu'on a pris le temps de les écouter. Et je le répète, il y a un drame derrière chaque porte que vous frappez. Une femme qui est battue, une femme qui est abandonnée, un homme qui baigne dans l'alcoolisme, un jeune homme qui vit dans la drogue, des enfants qui sont laissés à eux-mêmes, des gens qui vivent les conséquences de leur péché. Frères et sœurs, c'est ça à quoi l'Église est appelée. C'est facile de venir à l'église le dimanche matin d'entendre le messager qu'on est gâté, hein? On est gâté. Alors qu'en Inde, il y a des hindous qui n'ont jamais entendu l'Évangile une seule fois dans leur vie. Vous avez combien de versions bibliques dans vos foyers, frères et sœurs? Il y en a qui n'ont même pas eu la grâce encore d'avoir une seule page sur leurs yeux. Et nous, on ne sait plus quoi faire avec toutes les versions qu'on a dans la maison chez nous. Combien de chrétiens croient qu'ils peuvent entrer au ciel grâce au bien qu'ils ont fait sur la terre? Combien comptent sur ce qu'ils ont fait de bon et sur leur capacité à obéir aux 10 commandements pour entrer au ciel? Si vous pensez ce matin que vous pouvez obtenir la vie éternelle en fonction de ce que vous avez fait de bon ou fait de bien, je me dois de vous poser les 3 mêmes questions que Jésus a posées au jeune homme. La première question, verset 18. Vous considérez-vous comme étant une bonne personne ce matin? Après s'être adressé au Seigneur en l'appelant « bon maître », Jésus lui dit au verset 18, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Et Jésus est en train de lui dire ici, « Tu ne peux pas m'appeler bon à moins que tu reconnaisses que je suis Dieu. » Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'était pas bon, mais qu'il était Dieu, affirmant qu'il était sans péché. Et dans chapitre 8, il va dire, « Qui de vous me convaincra de péché? » Parce que je fais toujours ce qui est agréable au Père. Pourtant, ce jeune homme croyait sans doute que ceux qui sont bons vont au ciel, et Jésus va lui montrer qu'il avait une trop grande estime de sa personne en lui rappelant que seul Dieu est bon. Faites-vous partie de ceux qui croient cela ce matin? Jésus savait très bien que si ce jeune homme devait être sauvé, il avait besoin de réaliser qu'il était loin de répondre à cette norme. Car il n'y a de bon que Dieu seul. Il avait besoin de réaliser qu'il était loin de répondre à cette norme. Une personne ne fera pas appel à un médecin, à moins d'avoir la certitude qu'elle est malade. De même, personne ne fera appel à un sauveur tant et aussi longtemps qu'il ne réalise pas qu'il a un problème avec le péché. Voilà, quand on dit « y a-t-il un ciel et un enfer », tôt ou tard, on doit parler du problème du péché, même dans le porte-à-porte. Et dans le porte-à-porte, il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur. On veut tellement parler de l'amour de Dieu. Vous imaginez si je vous rencontre pour la première fois que je vous dis que Dieu vous aime? Vous êtes un païen, vous avez du plaisir dans le monde, vous vous amusez, vous avez des hobbies, vous Vous avez une caravane, vous partez en Espagne, vous partez à droite et à gauche. Je vous dis, hey, t'es-tu au courant que Jésus t'aime?
Ouais.
Pourquoi Jésus? Pourquoi tu me dis que Jésus m'aime? Pourquoi Jésus dit que tu dis que Jésus m'aime? Parce que tu sais que tu es un pécheur, est-ce que tu sais que tu es perdu pour l'éternité? Et si vous ne voulez pas être aussi direct, tu lui dis, ben écoute, est-ce que tu as obéi à tous les commandements? Ce que Jésus fait ici, hein? Il est devant les religieux. Il le place devant les 10 commandements. Et si vous êtes capable, à travers les 10 commandements, d'amener la personne à réaliser qu'elle a péché, vous allez l'amener au pied de la croix. Que Jésus m'aime, ça ne veut rien dire. Que Dieu l'aime, ça ne veut rien dire. Il faut dire pourquoi. Il a donné son Fils. Il a sacrifié le seul qu'il avait. Pas un parmi les 8, parmi les 10. Il y en a eu un. Il l'a sacrifié pour des pécheurs comme vous et moi. Pécheur, vous savez, c'est un mot biblique. Dans le langage biblique. Si on était dans la société, on dirait un pécheur, c'est un criminel. Parce qu'il a enfreint la loi. Quelqu'un qui enfreint la loi dans la société, c'est un criminel. Quelqu'un qui enfreint la loi de Dieu, c'est un criminel pécheur. Et pour être pardonné, pour ne pas faire du temps pour l'éternité en enfer, pour recevoir une grâce, pour être pardonné, eh bien, il doit venir à celui qui peut lui accorder cette grâce, et c'est Dieu à travers Jésus-Christ. Christ a fait le temps que tu méritais de faire en enfer. Christ a souffert ce que tu méritais de souffrir pour tes péchés. Parce que Dieu t'a fait grâce. Veux-tu accepter cette grâce? Ou préfères-tu, par tes propres moyens, essayer de gagner ton ciel et te retrouver à la fin, perdu pour l'éternité en enfer? Après, c'est ça, il est temps que l'Église revienne au message. John Woodrow, qui est un journaliste français, il s'occupe d'un article, qui s'occupe d'une colonne religieuse dans un grand journal français. On a fait les tours de différentes églises en France suite à une enquête, un sondage qu'on lui avait demandé de faire. Et là, je ne vous parle pas d'un chrétien, je vous parle d'un gars qui s'occupe d'une chronique religieuse dans un journal français. Et il a dit, après tout ce que j'ai entendu dans les églises, il est temps que l'Église revienne au message que Jésus lui a donné, sinon elle est appelée à disparaître. Si l'Église veut retrouver l'impact qu'elle avait au début de l'Église primitive, elle doit revenir au message de l'Évangile. Je vais vous dire ce qu'on n'aime pas, et c'est vrai, vous dire pourquoi on n'est pas prêt à prêcher le message de l'Évangile. Verset 30. Verset 29-30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères. Et Dieu m'a donné des frères. Dieu m'a donné une famille. Dieu m'a donné des mères. Dieu m'a donné des enfants. Et des terres, et regardez ce qu'on n'est pas prêt à accepter, avec des persécutions. Si vous prêchez l'Évangile, vous ne pouvez pas passer à côté des persécutions. Vous ne pouvez pas. C'est tellement flagrant, le miroir que vous braquez devant des pécheurs, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir des persécutions. Mais par contre, si vous annoncez l'Évangile, vous ne pourrez pas vous empêcher d'avoir des persécutions, mais vous ne pourrez pas empêcher Dieu de déverser de riches bénédictions dans votre vie et dans votre famille. Amen. Ouais. Ouais. Je vous pose la question ce matin. À travers toute l'évangélisation que vous avez faite, que vous avez parlé de l'amour de Dieu, que vous vous êtes arrêté à l'amour de Dieu avec ceux avec qui vous avez annoncé l'Évangile, combien il y en a qui sont venus au Seigneur? Parce qu'il manque une partie. Et ici, ben, prenez-le, parce que les versets 29 et 30, c'est une promesse. Tu vas annoncer l'Évangile, tu vas être persécuté. Tu faire des persécutions, mais en même temps, regarde de l'autre côté, regarde vers le ciel, Dieu va déverser de riches bénédictions dans ta vie. Jésus savait très bien que si ce jeune homme devait être sauvé, il avait besoin de réaliser qu'il était loin de répondre à cette norme. Une personne ne fera pas appel à un médecin, comme je l'ai dit tantôt, à moins d'avoir la certitude qu'il est malade. Et le pécheur, la personne qui réalise qu'elle est pécheresse, eh bien, elle, à partir du moment où elle réalise, là, elle a besoin d'un sauveur. Elle va dire comme le geôlier, « Que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être sauvé? » La loi permet seulement à l'homme de savoir qu'il a péché. Il obéissait à tous les commandements. Et la question que Jésus lui dit ici, c'est la deuxième, « As-tu obéi à toute la loi? » Et cet homme supposait qu'il pouvait avoir la vie éternelle en obéissant aux commandements. Il pensait que la loi était un moyen que Dieu avait donné à l'homme pour être sauvé, mais il était en train de découvrir, il était sur le point de découvrir quel était le véritable but de la loi. Romains chapitre 3, verset 20. La loi n'a pas été donnée à l'homme pour qu'il soit sauvé, la loi a été donnée à l'homme pour qu'il réalise seulement qu'il est pécheur. Et il n'y a aucun moyen d'être sauvé par la loi, voilà pourquoi la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi nous a été donnée par Moïse, c'est tout, t'es pécheur, t'es cuit. Mais voilà que Dieu envoie Jésus-Christ, la grâce et la vérité. Jésus vient proclamer la grâce. Il vient dire que l'accomplit ce que la loi n'était pas capable d'accomplir pour les pécheurs. Dieu vous fait grâce. Aïe, aïe, aïe. T'es un pécheur, voici comment Dieu veut t'accorder son salut. Voici comment Dieu veut effacer tes péchés. Parce que rappelons-nous, dans l'Ancien Testament, il couvrait les péchés n'étaient jamais effacés, couvraient. Et on les faisait une fois par année pour se rappeler à chaque fois qu'on était pécheur. Et c'était lourd, la loi. Elle était lourde, la loi à porter. Là, Jésus dit, « Chut, il m'a débarrassé de ça. Je vais les porter, moi. Je vais les porter, tes péchés. Je vais les porter. Ouais. » Pour que tu puisses en être dégagé et dégagé de la condamnation. Et Jésus, ici, il voit qu'il est en présence de quelqu'un qui cherche à obéir de tout son cœur avec la loi. Et il va essayer de toucher le cœur du jeune homme en faisant référence à la loi. Il dit, « Tu connais les commandements. » Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Frères et sœurs, tu ne feras jamais de tort à personne, ça ne fait pas partie des commandements. Hein? Et Jésus lui lance. Hein? C'est un hérétique, Jésus, non? Tu ne feras pas de tort à personne, ça le ramène, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement qui est semblable au premier. Que Jésus va nous laisser. C'est un commandement qui ne se retrouve pas là dans la loi, mais il résume la loi qui exige que nous donnions à notre prochain ce qui lui est dû. Probablement que le jeune homme riche avait plusieurs serviteurs ou employés. Est-ce qu'il était juste envers eux? Est-ce qu'il leur donnait un salaire équitable? Est-ce qu'il les payait quand c'était le temps de les payer? Est-ce qu'il les retardait leur versement? C'était la façon de témoigner de Jésus, parce que Jésus avait pris le temps d'écouter ce jeune homme riche, et il savait où il pouvait l'atteindre. Tu penses que tu peux devenir riche, devenir juste en obéissant au commandement? Et Jésus, comme un bon évangéliste, il va l'amener à réaliser que c'est par grâce qu'on est sauvé. Ouais. C'est ça le message de la grâce. Et si on veut être capable de le proclamer, on a besoin de savoir à qui on s'adresse. Pour être capable de proclamer ce message de la grâce, sinon on prêche dans le vent. Bien sûr que le Saint-Esprit est là. Bien sûr que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous utiliser, c'est lui qui convertit. Mais il utilise nos bouches pour que les cœurs puissent être atteints. D'où l'importance de méditer les Écritures, frères et sœurs, de méditer les Écritures, pour qu'on puisse citer les Écritures. À un moment donné, lorsque nous témoignons à quelqu'un, nous devons parler des commandements de Dieu afin d'amener celui-ci à réaliser qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. Jésus va lui dire, la question, as-tu gardé tous les commandements de Dieu? Voilà ici quel était le problème. Il croyait qu'il avait obéi à tous les commandements de Dieu. Le jeune homme riche va répondre à Jésus en disant, Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse, c'est-à-dire depuis que je suis tout petit. Tout petit, je ne me souviens pas d'avoir désobéi à aucun commandement. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Il est en train de dire à Jésus, « Je suis une bonne personne, je n'ai rien à me reprocher. Du plus loin que je me souvienne, je n'ai jamais désobéi à la loi. » Comment ne pouvait-il pas, sur la base de la loi, ne pas être certain d'entrer au ciel? Alors Jésus devait rétablir les choses, hein? Si tu peux te trouver juste en fonction de la loi, moi je suis venu ici pour rien, hein? Il n'avait pas été effronté ni malhonnête et il n'avait pas dit cela par orgueil. Extérieurement, frères et sœurs, salut Émile, il avait probablement fait beaucoup de sacrifices pour obéir à tous les commandements. Ben, il me salue, je suis obligé de le saluer, hein. Il avait fait tous ses efforts pour obéir à tous les commandements. Frères et sœurs, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a quelqu'un d'autre dans les Écritures qui pensait que c'est comme ce jeune homme et qui avait besoin de voir sa vie être bouleversée? Il s'agit de Saul de Tarse. Et lorsqu'il a écrit aux chrétiens de Philippe, il leur dit, « En ce qui me concerne, la recherche d'une vie juste par l'obéissance de la loi, on ne pouvait rien me reprocher. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause de Christ. Je considère tout cela comme étant des déchets afin de gagner Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à mon obéissance à la loi. » Paul dit, en ce qui concerne la recherche d'une vie juste par l'obéissance de la loi, on n'avait rien à lui reprocher. Je me suis efforcé de m'assurer que je faisais tout ce que j'étais supposé faire et je me tenais éloigné de tout mal afin de ne rien faire de ce que je n'étais pas supposé faire, dit l'apôtre Paul. Mais il était perdu dans ce qu'il considérait faire comme étant juste. Tout comme ce jeune homme qui est perdu, même s'il vient voir la bonne personne qui lui pose la bonne question à poser, et qui s'approche de lui avec une bonne attitude, en ayant une bonne attitude. Et nous avons ici un bel exemple des problèmes que nous rencontrons avec les gens qui ont mené une bonne vie et qui n'ont rien à se reprocher. Ils ont les yeux fixés sur leur apparence extérieure. Ce qui compte pour eux, ce n'est pas ce que Dieu pense d'eux, c'est ce que les gens pensent d'eux. C'est ça, un religieux. Mais, c'est ça, hein? Ben, lui, là, écoute, lui, c'est quelqu'un, hein? On n'est pas capable de le coincer dans rien. Hein? On n'a rien à lui reprocher. Hein? Et frères et sœurs, ce n'est pas un critère pour être sauvé. Parce que Dieu regarde au cœur. Nous, on regarde aux apparences. C'est ce qu'il dit au prophète Samuel. On regarde donc aux apparences. Et on se fait bourrer. Hein? Et combien de gens qu'on choisit dans nos églises comme étant responsables uniquement en fonction des apparences. Et on oublie de faire comme les apôtres dans les livres et les actes, de prier pour voir si cette personne est vraiment appelée à ce poste. Et on se retrouve après avec un paquet de problèmes parce qu'on les a choisis selon nos apparences et non pas selon le cœur de Dieu. On n'a pas consulté Dieu, dit Seigneur, qui appelles-tu à ce poste? Qui appelles-tu à ce ministère? Qui appelles-tu à tel endroit, Seigneur, pour te servir? Ouais. La personne vient au Seigneur, on ne lui laisse pas le temps de maturer. Elle a beaucoup de qualités naturelles. Mais on oublie si spirituellement, elle est appelée par le Seigneur et on oublie d'attendre qu'elle se développe spirituellement, qu'elle mature et on l'apprend. Et on se retrouve avec des gros problèmes dans nos églises. Troisième question, verset 21. Es-tu vraiment parfait ce matin, toi qui es dans cette salle? Jésus a remarqué qu'il avait une conception assez particulière de la bonté et de la justice. Il va alors lui dire, il te manque une chose. Ça veut dire quoi, s'il te manque une chose? C'est que tu n'es pas parfait. Il te manque une chose. En d'autres mots, si tu veux être parfait, jeune homme, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Le point que Jésus veut faire ressortir ici, c'est que si tu veux être sauvé en gardant la loi, tu dois obéir parfaitement à la loi. Jésus va faire voler en mille miettes la façon dont cet homme pense être juste, en dévoilant son amour pour l'argent et le manque de bonté envers son prochain. Car voyez-vous, lorsque Jésus va citer la loi une première fois, il va volontairement oublier le 10e commandement qui dit « Tu ne convoiteras point ». Il va maintenant lui montrer de quelle façon il avait enfreint ce commandement en lui demandant de vendre tous ses biens et de les donner aux pauvres. Il avait vu qu'il avait fait de ses recherches, son idole. Il avait vu Jésus qu'il aimait bien ses biens plus que Dieu. Chers amis, avant de continuer, y a-t-il quelque chose dans votre vie ce matin que vous aimez plus que Dieu? qui vous empêche de le servir comme vous devriez le servir, qui vous empêche d'être ce témoignage chrétien à laquelle Dieu vous appelle d'être, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui occupe la place dans votre vie, la place que Dieu devrait occuper. En d'autres mots, pour faire court, frères et sœurs, avez-vous une idole cachée dans votre vie qui empêche le Seigneur d'agir pour le bénéfice de son royaume dans vos vies ce matin? Le jeune homme, il en avait une idole, et c'était ses biens, c'était son argent. Et il enfreignait aussi le premier commandement de Dieu, qui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Soit donc que je ne peux pas être suffisamment bon, suffisamment obéissant pour réussir à entrer dans le ciel. Jésus va alors dire aux disciples, verset 27, concernant la façon d'obtenir la vie éternelle, cela est impossible aux hommes. Cela est impossible aux hommes. Tu peux pratiquer la religion que tu veux. Tu peux te mettre sur un système de valeurs et d'œuvres que tu veux. Jésus dit, il est impossible aux hommes de gagner leur ciel. Mais ce qui est impossible aux hommes, tout est possible à Dieu à travers Jésus-Christ. Amen. Car quoi que cela soit impossible pour nous de gagner notre salut, Jésus dit dans la dernière partie du verset 27, mais non impossible à Dieu, car tout est possible à Dieu. Dieu a trouvé un moyen de nous sauver, frères et sœurs. Et ce moyen, c'est à travers Jésus-Christ et à sa mort sur la croix. Maintenant, regardons rapidement cette invitation. Verset 21. Jésus va poursuivre en disant, dans la dernière partie du verset 21, « Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. » Et frères et sœurs, on a besoin de revenir aux chrétiens de l'Église primitive. Lorsqu'ils demandent aux premiers disciples, « Viens et suis-moi. » Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se mettent pas à prier, à réfléchir ce qu'ils doivent faire. La parole nous dit, dans les évangiles, ils ont tous abandonné, tout de suite, aussitôt, le mot grec. Aussitôt. Ils laissèrent là tout ce qu'ils étaient en train de faire pour suivre Jésus. Et frères et sœurs, il est possible, sans porter de condamnation, écoutez, ça me parle énormément, moi aussi, hein, énormément ce matin. Il y a des choses que je dois remettre en ordre dans ma vie aussi. Est-ce qu'on a tellement de choses, on a tellement accumulé de choses, frères et sœurs, que ça nous empêche de suivre Jésus comme on devrait le suivre, à la même vitesse qu'il voudrait qu'on le suive? Est-ce qu'il ne nous demande pas de laisser certaines choses, frères et sœurs, pour qu'on puisse courir la course à laquelle il nous appelle de courir? Votre maison, est-ce qu'elle vous prend beaucoup de temps, frères et sœurs? Combien d'heures que votre maison s'accrache après votre jambe? Combien d'heures vous passez et qui s'accroche à frotter vos meubles? Combien d'heures vous passez à regarder votre maison et dire, c'est-tu beau ce que j'ai fait? Ouais. Le Seigneur, il dit, ouais, allez, cours la course à laquelle je t'appelle. Cours la course à travers je t'appelle, mon frère et ma sœur. Ce que ce jeune homme devait faire, il devait abandonner l'amour qu'il portait pour ses biens. Et aussi abandonner son idole et se repentir de sa cupidité, parce que c'était ça son péché. C'était un cupide. Et vous savez pourquoi c'était un cupide? Lisez l'histoire, il n'a jamais voulu abandonner son idole. Parce qu'il était cupide. S'il n'était pas attaché à l'argent, qui est le commencement de tous les maux, nous dit la parole. Seigneur Jésus, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis vraiment pas attaché à l'argent. Hein? Aïe, aïe, aïe. Non. S'il avait regardé à Jésus, il aurait vu tout ce qu'il avait à gagner à le suivre. Mais il regardait encore assez bien et il a vu tout ce qu'il avait à perdre s'il suivait Jésus. Aïe, 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 quelle différence. Quelle différence. Frères et sœurs, est-ce que c'est votre cas, mon cas, ce matin? Si on détourne nos yeux sur le regard qu'on doit porter sur Jésus, eh bien, on regarde à nos biens, on regarde à tout ce qu'on a accumulé, et on se dit, c'est pas possible de perdre tout ça. Est-ce que je suis prêt à perdre tout ça? Et si on regarde le Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je ne peux pas croire tout ce que tu as en réserve pour moi, les trésors que tu as en réserve pour moi, Seigneur Jésus. J'ai tout à gagner à te suivre. Seigneur, fais en sorte que je garde mes yeux fixés sur toi du début jusqu'à la fin, dont la foi dépend. Ouais. Le combat spirituel, il est là, hein? Nous détourner le regard de Jésus pour les tourner sur les biens qui sont appelés à périr pour l'éternité. Et Jésus dit, amassez-vous des trésors dans les cieux. Frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur va ouvrir là-haut? Quelle sera la grandeur du sac qu'il va ouvrir quand on entrera tous au ciel? Qu'est-ce qu'on aura accumulé comme trésor au ciel, frères et sœurs? Des choses qui sont périssables? Non, ça va être détruit. Le ciel et la terre vont passer, vont brûler. Et frères et sœurs, toutes les fois qu'on aura ouvert la bouche pour proclamer l'Évangile de Jésus-Christ, ce sont des paroles qui montent vers le ciel, vers le trône de la grâce de Dieu, frères et sœurs. Ça fait partie, c'est une partie des trésors qu'on s'accumule vers le ciel. Maintenant, il est important que je le dise, que je le rappelle. Jésus, ici, n'est pas en train d'obliger qui que ce soit à vendre tout ce que vous possédez pour avoir la vie éternelle. Cet ordre, il s'appelle spécifiquement à ce jeune homme pour une raison bien spécifique. Le jeune homme a un problème avec l'argent et Jésus a un problème avec ses biens et Jésus le touche. Donc, je ne suis pas prêt à dire et je ne le dirai pas. D'ailleurs, les exégètes le disent aussi. Jésus ne demande pas à tous les chrétiens de tout se débarrasser, de tout vider, leurs armoires, et s'en aller comme des sans-abri dans la rue pour proclamer l'Évangile, c'est bien spécifique à ce jeune homme riche. Si ça avait été un autre problème, Jésus aurait utilisé une autre méthode pour l'atteindre, le toucher dans son péché. Mais ici, Jésus, le principe demeure, vous devez renoncer à tout ce qui vous empêche de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Ainsi donc, ici, en ce qui concerne ce jeune homme, il est en train de dire, Jésus est en train de dire, abandonne ton idole et abandonne ton argent, abandonne ce en quoi tu fais confiance. Et je le rappelle, frères et sœurs, ce matin, chers, avez-vous une idole dans votre vie? Avez-vous une idole dans votre vie? Fermez vos yeux quelques instants. Il faudrait changer l'horloge de place, hein, parce qu'on ne voit pas les aiguilles ici. Hein. C'est épouvantable. Fermez vos yeux. Laissez le Saint-Esprit. Ouvrez pas la bouche, là, parce que je vais voir que vous êtes en train de prier. Mais intérieurement, laissez le Seigneur, le Saint-Esprit vous visiter ce matin. Première question qu'on pourrait se poser tous. Hein? Seigneur Jésus, s'il y a quelque chose qui prend la place que tu dois occuper dans ma vie, veux-tu me le montrer ce matin? Seigneur Jésus, tu vois que je suis faible dans ce domaine, veux-tu m'en délivrer, s'il vous plaît? Seigneur, je te demande de m'en délivrer pour que tu puisses te glorifier. Parce que je voudrais être le chrétien que tu veux que je sois. Et Seigneur, cette idole que j'ai dans ma vie m'empêche d'être une lumière dans ce monde pour les perdus. Seigneur, je n'essaierai pas par moi-même de m'en débarrasser. J'en suis incapable. Mais je sais que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire sur ces idoles ou sur cette idole qui traîne dans ma vie. Et Seigneur, c'est dans cette victoire que je proclame la délivrance. Que je te demande de faire de moi le chrétien que tu veux que je sois. Pendant que les têtes sont baissées, que les yeux sont fermés, s'il y a des gens dans cette salle ce matin, sans porter de jugement, je ne ferai pas d'appel. Si vous voulez lever la main, parce que vous avez reconnu à travers ce que j'ai dit que vous avez besoin de prière, simplement lever la main, je vais voir vos noms et je vais prier pour vous. Merci pour cette main. Quelqu'un d'autre? Simplement lever la main. Je vais prier pour vous. Pas maintenant, mais je vais vous mettre sur ma liste de prières. Merci pour cette main. Merci pour cette main. Quelqu'un d'autre? Merci pour cette main. Oui, vous pouvez la baisser. Frères et sœurs, en terminant, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que le jeune homme a quitté les lieux, le cœur triste, découragé par les paroles de Jésus. Parce que ce qu'il espérait entendre, ce n'est pas ce qu'il a entendu. Et que ce qu'il venait d'entendre ne l'arrangeait pas du tout parce que Jésus venait de mettre le doigt sur ce qui n'allait pas dans sa vie. Comme il l'a fait lorsqu'il a mis le doigt sur ce qui n'allait pas dans la vie de cette femme samaritaine au puits. Et vous voyez Jésus, comment il travaille dans l'évangélisation. Il n'a pas abordé la jeune femme au puits avec les commandements de Dieu. Il a parlé de ses maris. Comme il a fait avec la femme adultère. Et Jésus ne l'a pas fait pour condamner ce jeune homme, mais vraiment pour mettre le doigt sur ce qui n'allait pas pour qu'il puisse finalement être sauvé. Frères et sœurs, c'est une belle histoire pour nous qui nous rappelle que Dieu veut qu'on lui appartienne entièrement, que Dieu, ce qu'il désire, c'est occuper toute la place qui lui revient, parce qu'il en a payé tellement un grand prix. Qu'en retournant à la maison aujourd'hui, on puisse laisser le Saint-Esprit continuer à agir dans nos vies. Que si on a des choses à délaisser, ça peut être des relations, ça peut être un péché, ça peut être une idole. Eh bien, rappelons-nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'en Jésus-Christ, on a la capacité de dire non à toutes ces choses. Pour que Dieu puisse se glorifier à travers chacun de vous. Pour que Dieu puisse se glorifier à travers moi. Manifester la gloire de Jésus-Christ. Amen.